d'abord, et une fois encore, remercier ceux d'entre vous qui m'écrivent parfois, aussi bien à propos du haïku que du labyrinthe, pour me donner des informations, des rectifications, des exemples, des prolongements, parfois des sollicitudes concernant ma santé. Bref, tout ce qui témoigne, à cela que je suis très sensible, d'une sorte de complicité au niveau de ce cours. La dernière fois, j'ai essayé de dire ce que c'était que l'individuation, qui n'est pas l'individualité, qui est une sorte de moment de l'individu, détaché en quelque sorte du sujet, et qui fait que le sujet humain se présente alors comme une sorte de moire, de tapisserie extrêmement nuancée, de moments individués. Et naturellement, je pense que le haïku est l'expression formelle la plus pure de cette notion d'individuation. Et j'en viens maintenant à quelque chose dont je crois que j'ai déjà parlé à un cours précédent, c'est-à-dire l'année dernière probablement, et qui est, disons, la pratique générale, mentale, écrite, vécue, de l'individuation, et que j'appellerai la nuance. Je considère que la nuance est la pratique de l'individuation. Et je dirais que étymologiquement, l'étymologie du mot nuance nous importe, car elle implique précisément un rapport au temps qu'il fait. Nous sommes partis du temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, en latin, je l'ai dit, ça n'est pas tempus, et le temps chronologique, c'est selum, selum, coelum, le ciel. Or, en ancien français, le verbe nuer, N-U-E-R, qui a donné nuance, voulait dire comparer les couleurs nuancées avec les reflets des nuages. Donc, la nuance a un rapport avec le temps qu'il fait. Et la nuance, je pense qu'il faut prendre cette catégorie fortement, généralement, théoriquement, pour une sorte de langue autonome. À preuve, peut-être, qu'elle est, je dirais, névrotiquement censurée et refoulée par la civilisation grégaire d'aujourd'hui. Je dirais, selon ma sensibilité en tout cas, que la civilisation des médias, des masses médias, se définit à mes yeux par le rejet agressif de la nuance. Je crois que j'ai parlé plusieurs fois de la nuance comme pratique fondamentale de communication. Je crois même que j'avais risqué un néologisme, puisque nuance en grec pourrait se dire diaphora, la différence, si vous voulez. On pourrait parler d'une sorte de langue des nuances ou de science des nuances qu'on appellerait la diaphorologie. Mais je voudrais ajouter ici, parce que je l'ai retrouvé depuis, ce mot d'un grand esprit qui est encore un peu inconnu ou méconnu en France, mais qui devient, je crois, très connu aux États-Unis, qui est Walter Benjamin. Et qui a écrit en particulier, les choses sont, nous le savons, technicisées, rationalisées, et le particulier ne se trouve plus aujourd'hui que dans les nuances. Vous savez que il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une crise du style, crise pratique et théorique, puisque il n'y a pas en littérature et en écriture aujourd'hui de théorie du style. Il s'en cherche périodiquement, aucune ne s'établit vraiment, et certains s'en préoccupent. Or, on pourrait définir comme le style comme la pratique écrite de la nuance. Plus précisément, la difficulté qu'il y a dans la société actuelle à reconnaître le style pour une valeur. Un exemple tout de suite est dans le haïku même, c'est le haïku numéro 10, à mon avis, si rudement tombe sur les œillets l'averse d'été. Eh bien, je dirais que cet adverbe rudement, c'est la nuance décisive. Sans ce rudement, il n'y aurait ni été, ni bruit. C'est le rudement qui fait l'individuation du haïku, du moment et du haïku, de l'averse d'été. S'il n'y avait pas ce rudement, on aurait la platitude, bref, l'indifférence, c'est-à-dire en grec adiaphora, le contraire de la diaphora, de la nuance, cette adiaphora, cette indifférence, non-différence, que Nietzsche assimilait au langage de la science et contre laquelle, vous savez, il se déchaînait. La nuance serait donc une sorte ou impliquerait un apprentissage de la subtilité, comme par exemple dans le haïku numéro 11, premier lever de soleil, il y a un nuage comme un nuage dans un tableau. C'est subtil pourquoi? Parce qu'il y a un renversement du réel et du tableau. Il y a donc une agilité et une subtilité. À partir de quoi on peut peut-être comprendre que la poésie, en particulier, serait, disons, la pratique de la subtilité dans un monde barbare, et d'où la nécessité aujourd'hui de lutter pour la poésie. La poésie, je dirais, devrait faire partie des droits de l'homme. Elle n'est pas décadente, elle est au contraire subversive, elle est subversive et vitale, parce que précisément, elle est ce qui est visé par l'agrégarité, par la barbarie, par la conclusion des nuances, des particuliers, des individuations, et non pas des individus. Pour m'avancer un peu dans cette notion de nuance ou de différence, je voudrais rappeler ou vous dire un paradoxe dont Blanchot donne la formulation. Blanchot écrit: tout artiste, et c'est bien la pratique que nous interrogeons ici, tout artiste est lié à une erreur, tout artiste est lié à une erreur avec laquelle il a un rapport particulier d'intimité. Tout art tire son origine d'un défaut exceptionnel, toute œuvre est la mise en œuvre de ce défaut d'origine, d'où nous viennent l'approche menacée de la plénitude et d'une lumière nouvelle. Je dirais en effet, du point de vue endoxal, c'est-à-dire du point de vue de la doxa, de la grosse opinion publique, la nuance, au fond, on pourrait dire que c'est ce qui est raté. C'est ce dont l'artiste part, mais qui est vécu par la doxa comme quelque chose de raté. Du point de vue du bon sens, de l'orthodoxie, c'est quelque chose de raté. Et il faudrait, disons, reprendre ici une métaphore qui est très belle, qui est, ou disons, un phénomène qui peut servir de métaphore, qui est que les plus belles céramiques, souvent, ce sont celles qui sont en quelque sorte ratées au moment de la cuisson. Enfin, ce qui donne les plus belles nuances de couleur dans une céramique, parfois, ou souvent, même peut-être, c'est un défaut, un excès ou un défaut de cuisson qui produit des couleurs incomparables, des traînées inattendues et volumineuses. D'où, d'une certaine façon, la nuance, c'est ce qui irradie, ce qui diffuse, ce qui traîne comme le beau nuage d'un ciel. Et il y a un rapport entre l'irradiation et le vide. Peut-être que dans la nuance, il y a en effet une sorte de tourment du vide, ce pourquoi elle déplaît tellement aux esprits positifs. J'avais là supprimé le peur d'être un peu long, car le cours d'aujourd'hui est peut-être un petit peu abstrait. J'avais supprimé une citation, parce qu'elle elle a un rapport un peu elliptique avec ce que je veux dire, mais après j'y réfléchis et je la trouve tellement belle que je vais quand même vous la lire, même si elle a un rapport un peu difficile à établir avec ce problème de la nuance. C'est une citation de Joubert, écrivain du début du 19e siècle, qui est rapporté par Blanchot. Blanchot étant un grand liseur, a toujours une moisson de citations merveilleuses. Et voici ce que dit Joubert. Ce globe est une goutte d'eau. Le monde est une goutte d'air. Je vous prie de voir derrière toutes ces formulations une certaine idée du haïku. Ce globe est une goutte d'eau, le monde est une goutte d'air, le marbre est de l'air épaissi. Oui, le monde est de gaz, et même d'une gaz claire. Newton a supputé que le diamant avait x fois plus de vide que de plein, et le diamant est le plus compact des corps. C'est ceci. Avec ses gravitations, ses impénétrabilités, ses attractions, ses impulsions et toutes ces forces aveugles dont les savants font tant de bruit, qu'est-ce que toute la matière qu'un grain de métal évidé, un grain de verre rendu creux, une bulle d'eau bien soufflée où le clair-obscur fait son jeu, une ombre enfin où rien ne pèse que sur soi, n'est pénétrable que pour soi. Eh bien, je voulais rapporter cette citation parce que je pensais qu'effectivement, on pouvait considérer que le haïku était comme un diamant, mais dans la mesure où on conçoit avec Joubert et Newton, donc paraît-il, que le diamant est en réalité un condensé de livres. Donc, la nuance, le vide, l'idée du vide, c'est un thème aigu lorsqu'il s'agit d'écrire, de créer. Et là, je voudrais toujours rappeler le texte, je crois, célèbre de Mallarmé, qui est une déclaration de 1867 à un intervieweur, c'était le Fébur. Mallarmé dit « Je n'ai créé mon œuvre que par élimination de toute vérité acquise. Je n'ai créé mon œuvre que par élimination. » Et toute vérité acquise ne naissait que de la perte d'une impression qui, ayant étincelé, s'était consumée et me permettait, grâce à ces timbres dégagés, d'avancer plus profondément dans la sensation des ténèbres absolues. La destruction fut ma béatrice. Vous imaginez combien tout ceci colle au haïku. Je dirais que créer poétiquement, selon l'eidos du haïku, c'est vider, c'est exténuer, c'est faire mourir le son au profit du timbre, en quelque sorte. Je dirais que le haïku, c'est une poésie de timbre, de même qu'il y a en musique, dans la musique contemporaine, une grande rupture à partir du moment où, avec Webern, on a conçu la possibilité que le timbre soit lui-même un élément constituant du langage musical et non pas seulement, bien sûr, le son, c'est-à-dire le ton, la tonalité. Donc le haïku, ce serait une poésie de timbre. Et on pourrait dire à ce moment-là, toujours autour de ce thème du manque, du vide, avec Blanchot, une fois de plus, et ceci convenant au haïku, avec Blanchot à propos d'Artaud, Hölderlin et Mallarmé, Blanchot écrit, ce qui est très beau aussi, « L'inspiration est d'abord ce point par où elle manque. » Eh bien, en un sens, je dirais que le haïku, comme toute forme brève, qui en est fasciné, toute notation, en un sens peut être défini comme manque d'inspiration. Et de nouveau ici, nous comprenons mieux la poétique du temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, vous rappelez que je suis parti du temps qu'il fait comme banalité, en quelque sorte, eh bien, le temps qu'il fait serait une sorte de manque d'inspiration, de manque d'écriture, de manque de création, et l'impression native qui est retournée sur elle-même en gaspillage. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin de la nuance, qui est partie du temps qu'il fait? Eh bien, je dirais, il y a la vie. Il y a la sensation de la vie, le sentiment d'existence, et nous savons, par certaines formulations d'écrivains, de tous les temps d'ailleurs, et en particulier de Rousseau, que ce sentiment de la vie, de l'existence, pour être pur, intense, glorieux et parfait, il faut qu'un certain vide s'accomplisse dans le sujet. Et même lorsque la jubilation d'amour, par exemple, est la plus intense, c'est parce qu'il y a dans le sujet un vide de langage. Lorsque le langage se tait, il n'y a plus de commentaires, d'interprétations, de sens, saillance du discours, je dirais, car c'est un thème qui toujours m'obsède, la défaillance du discours est au fond fondamentalement ambivalente, et c'est ça qui me fascine. Car d'une part, la défaillance du discours, au moment où le discours manque, renvoie à deux états extrêmes. Ou bien cela renvoie à la misère absolue du paumé, de celui qui ne peut plus parler, qui ne peut pas parler parce qu'il n'a pas de langage en lui à sa disposition et qu'il est paumé, ou bien à l'autre état, à l'autre extrême, peut renvoyer à la jubilation ardente du vivant. Donc la nuance, si on ne l'arrête pas, c'est la vie. Et les destructeurs de nuances, notre culture actuelle, on connaît beaucoup, je dirais, je les vois, moi, comme des hommes morts, et qui, du sein de leur mort, se vengent en tuant les nuances. Donc, pour terminer avec cela, je dirais que le temps qu'il fait, si on découvre à fond l'existentialité du temps qu'il fait, on suscite en soi ce seul discours minimal, il vaut la peine de vivre. J'avais noté un matin de juillet 77, j'avais noté ceci. Que je lis tel que je l'avais noté. C'était à la campagne, et ça portait sur le temps qu'il faisait, ce 16 juillet 77. De nouveau, après des jours bouchés, une matinée de beau temps, éclat et subtilité de l'atmosphère, une soie fraîche et lumineuse, ce moment vide, aucun signifié, produit une évidence, il vaut la peine de vivre. La course du matin chez l'épicier, chez le boulanger, alors que le village est encore presque vide, je ne la manquerai pour rien au monde. Eh bien, si je me suis permis de me citer moi-même, c'est d'ailleurs une simple note, nullement vouée à l'édition, ça va de soi, c'est pour indiquer, et puis vous voyez bien qu'il y a des formules hyper littéraire, n'est-ce pas, tout ça est assez suspect, mais je veux dire que si j'étais haïkiste, si je savais faire des haïkus, c'est tout de même cela que j'aurais essayé de dire. Je l'aurais dit d'une façon à la fois plus essentielle et plus indirecte, moins bavarde, et j'aurais peut-être dit, ce que je n'ai pas su, le haïku numéro 12, comme si rien n'avait eu lieu, la corneille le sauve. Comme si rien n'avait eu lieu, la corneille le sauve. Voilà pour le temps qu'il fait. Alors, j'en viens maintenant à une sorte de thème propre à tout, qui rassemble un certain nombre de remarques sur ce qu'on pourrait appeler une dialectique fine du temps. Pourquoi dialectique fine? Alors du temps, cette fois-ci, au sens de time en anglais ou de tempus en latin, ou de chronos en grec. Pourquoi dialectique fine? Parce que chaque fois, en trois vers, de 5, 7, 5 syllabes, il y a présenté une contradiction entre deux catégories, contradiction brève, fulgurante, sorte de flash logique, dont la rapidité n'a pas le temps, si je puis dire, de faire souffrir. Et je vais vous donner trois de ces catégories qui entrent en contradiction dans le haïku à chaque fois. Et qui forment donc cette sorte de dialectique fine. La première contradiction, c'est la contradiction, mais on pourrait dire aussi la contraction, de l'instant et du souvenir. Donc, premièrement, instant et souvenir. D'un côté, il est évident que le haïku n'est pas un acte d'écriture à la Proust, c'est-à-dire destiné à retrouver le temps perdu, ensuite et après coup, pas enfermé dans la chambre de Liège du 102 boulevard Haussmann, qui est maintenant occupé par une banque, car tout est fait exprès, beaucoup des domiciles de Proust ont été finalement occupés par des banques. Mais donc, il ne s'agit pas de retrouver le temps perdu après coup, n'est-ce pas, enfermé dans une chambre de Liège, par l'action souveraine de la mémoire involontaire, mais dans le haïku, je dirais qu'il s'agit au contraire de trouver, et non pas de retrouver, de trouver le temps tout de suite et sur le champ. Le temps est sauvé tout de suite, comme s'il y avait une concomitance de la note, de l'écriture, et de l'incitation. Comme s'il y avait une fruition, une jouissance, une fruition. Ce mot est français, n'en doutez pas, il existe en Montaigne, une fruition immédiate du sensible et de l'écriture, l'un jouissant par l'autre grâce à la forme haïku. Donc, dans le haïku, il y a une écriture de l'instant, une écriture absolue de l'instant. Par exemple, le haïku 13, un chien aboie contre un colporteur, pêchés en fleurs. Je cite ce haïku parce qu'il suggère bien que l'art privilégié de l'instant, c'est la musique, c'est le son. L'eidos de l'instant, c'est le son. Et on retrouverait ici les théories du musicien américain John Cage, qui, même si on n'aime pas sa musique, ou même si on pense que sa musique n'est pas de la musique, de toute manière, a donné des remarques, des notations extrêmement perspicaces sur les problèmes, disons, de théorie de l'art moderne. Or, Cage, vous le savez, place toute sa mise de créateur sur l'instant. Il essaye de produire une musique où il n'y a que des instants. Et donc une métaphore justifiée, qui est sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est que le haïku, c'est quelque chose qui fait tilt, comme on dit quand on joue, pas dans les cafés. Ça fait, la machine fait tilt, T-I-L-T. Eh bien, le haïku fait tilt. Il fait tilt. Ce qui est un son, n'est-ce pas, le tilt. Et je dirais que c'est un son que moi, personnellement, je perçois vraiment comme l'un des 5 ou 6 sons eidétiques essentiels de ma civilisation. Ce bruit de ces machines, n'est-ce pas, quand la bouche touche quelque chose, je ne sais pas très bien quoi, que ça fait tilt, c'est quelque chose qui vraiment, pour moi, fait partie de ma civilisation. Eh bien, peut-être le haïku, dans une autre civilisation, c'est une sorte de tilt aussi. Ah, c'est une sorte de sonnerie, de son de cloche, très bref, unique et cristallin, qui dit « Je viens d'être touché par quelque chose ». Voilà ce que ça veut dire, le haïku. Et d'un autre côté, ce qui est l'autre côté de la contradiction, cet instant pur, c'est-à-dire sans compromission, qui semble ne se compromettre dans aucune durée, aucun retour, aucune rétention, aucune mise en réserve, aucune congélation. Bah, c'est un instant absolument frais, comme si on mangeait la chose notée, je dirais sur l'arbre même, comme un animal qui broute l'herbe vivante de la sensation. Donc cet instant semble dire aussi, je sonne tout de suite dans l'instant, mais c'est pour que tu te souviennes. Quand je relirai, quand tu reliras, c'est pour que tu te souviennes. Donc c'est là le second côté de la contradiction, c'est que c'est un instant qui a vocation de trésor. C'est un instant immédiat, consommé immédiatement, mais qui a en lui comme une sorte de vocation à être un souvenir, à être un trésor. On pourrait donner, je ne sais pas, parmi les titres qu'on pourrait donner à ce cours, s'il devenait un jour un livre, ce qui ne deviendra jamais, mais on pourrait donner ce titre, une formule un peu politique, « Demain, le souvenir ». Demain, j'ai pu le souvenir. Voilà quelle pourrait être l'une des devises du haïku. Demain, le souvenir. C'est-à-dire, le haïku, c'est tout de suite, mais en même temps, c'est en pensant déjà à demain que le tout de suite deviendra demain un souvenir. Et cette contradiction entre l'instant et le souvenir s'exprimerait dans ceci, que le haïku participerait à une sorte de catégorie nouvelle et paradoxale qu'on pourrait appeler la mémoire immédiate. C'est un peu une contradiction dans les termes. La mémoire immédiate, comme si la notation, c'est-à-dire le fait de noter, permettait de se souvenir sur le champ. Donc, cette mémoire immédiate étant opposée à la mémoire involontaire de Proust. La mémoire involontaire, c'est ainsi que Proust appelait la mémoire dont il a parlé, c'était une mémoire qui proliférait à travers une explosion infinie de métonymies, tandis que la mémoire immédiate ne prolifère pas. Elle reste sur elle-même, sur l'instant. Et je crois que c'est un peu la fonction de la poésie, dont le haïku est une forme radicale. Je dirais que tout ce qui est japonais, je veux dire le Japon du haïku, et pas le Japon, évidemment pas le Japon de la vue d'opéra, tout ce qui est japonais présente toujours, en tout cas à mes yeux ou à mes oreilles, ce mélange de subtilité et de radicalité, et qu'on pourrait presque parler dans le cas de certaines formes, de certaines expressions asiatiques, et pas seulement japonaises, on pourrait parler de nuances radicales, ce qui est un peu une contradiction dans les termes. Alors, je dirais que, donc, c'est dans le sens d'une transformation de l'événement en mémoire, mais aussi d'une consommation immédiate de cette mémoire, que je lis ces vers d'Edgar Poe, rapporté par Bachelard, qui d'ailleurs, comme Blanchot, était un grand et merveilleux moissonneur de belles citations, et qui rapportait ces vers d'Edgar Poe, donc, que moi j'applique à l'instant à haïkiste. Ces vers sont les suivants. Traduit. Maintenant, cependant que le destin approche et que les heures respirent à peine, les sables du temps se changent en grains d'or. Les sables du temps se changent en grains d'or. Eh bien, le haïku, c'est vraiment un grain d'or fait avec ce qui, autrement, s'il n'y avait pas l'écriture, serait simplement
le sable du temps synthétique. Vous voyez, ça fait un bruit civilisation. Ça, c'est la première contradiction entre l'instant et le souvenir. La seconde, c'est une contradiction, mais aussi une contraction, entre le mouvement et l'immobilité. J'en reparlerai, d'ailleurs, c'est ça. Mais à quoi on n'aurait pas pensé? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pensé à regarder dans sa ténité. Par exemple, voici un geste qui a été saisi par le Haïti, 14. Le petit chat, un moment, plaque au sol, la feuille entraînée par le vent. Le petit chat, un moment, plaque au sol, la feuille entraînée par le vent. Parce que j'ose, je dirais, c'est comme une remue, comme un copeau de vision. Mais en même temps, on saisit déjà, on saisit très bien, commencer en même temps déjà un souvenir. Et de là, on comprend bien que on comprend bien ce qu'est un geste, du moins dans la tradition japonaise, et cette tradition japonaise sur le geste, c'est une tradition qui nous est accessible à travers un ouvrage théorique, le traité de Zéami, Z-E-A-M-I, qui était un acteur et théoricien de théâtre, je crois, du Moyen-Âge, et dans le traité de Zéami, je les ai pas retrouvés, puisque vous savez déjà, je perds toujours les livres qui me tiennent à cœur. Il y a des notations, des remarques, des aphorismes très beaux sur le geste. Le geste est suspension. Il doit fournir l'évidence qu'il va tout de suite reprendre. C'est dans cela qu'il est immobile et animé. Je dirais que le geste, par exemple, c'est ce qui correspondrait au mythe de la belle voix dormant, où tout est suspendu, mais où tout va reprendre. Et le geste est effectivement une sorte de petit jardin qui dort et qui va s'en cette fonction du geste a été bien vue par tous les marginaux du théâtre. Je crois que, il me semble qu'aujourd'hui au théâtre, il n'y a plus de pensée véritable du geste, malheureusement. Peut-être parce que il n'y a plus de marginaux, et peut-être qu'il n'y a plus de marginaux au théâtre, parce qu'il n'y a plus d'orthodoxe au théâtre. Il n'y a plus de conformisme au théâtre et que par là même la notion de marginalité a disparu. Au cinéma, je pense que là, effectivement, il y a des films ou des metteurs en scène où vous pourrez retrouver une pensée, une méditation, une théorie du geste tel que j'essaye de préciser, et je pense évidemment à un film japonais, qui est Les Contes de la Lune Vague de Mizoguchi. Il y a un épisode qui est l'épisode de la femme fantôme, qui est un épisode que je trouve personnellement admirable, et où il y a là une pensée, une mise en scène, disons, du geste. Et je disais les marginaux du théâtre, parce que, par exemple, un mime s'appelait le mime Jacques Lecoq a dit très justement du geste ceci. Dans un geste, une attitude, un mouvement, il faut chercher leur immobilité. C'est ça qui est beau. Dans un geste, une attitude, un mouvement, il faut chercher leur immobilité. Et un autre marginal de tous ces problèmes d'expression, Jacques Dalcroze, un geste est non seulement le mouvement corporel, mais aussi l'arrêt de ce mouvement. Un geste est non seulement un mouvement corporel, mais aussi l'arrêt de ce mouvement. Et le geste, le haïku comme geste, dans tous les haïkus, il y a un geste. Et ce haïku fait penser un peu, par cette
simultanéité de mouvement et de mobilité à cette petite figurine qu'on appelle un ludion, qui est une petite figurine qui est suspendue dans l'eau, c'est-à-dire qui monte et qui descend, qui se meut, tout en donnant l'impression, je dirais, d'une finalité d'immobilité. Ça bouge, ça monte, ça descend, mais la finalité, c'est de paraître immobile, de paraître, de ne pas paraître bouger. Troisième contradiction et contraction, celle de la contingence et de la circonstance. Le référent du haïku, hein, ce qu'il décrit, ce dont il parle, c'est toujours donc du particulier. Aucun haïku ne prend en charge une généralité. Enfin, nous verrons ce problème un peu plus tard, mais on peut dire qu'en général, aucun haïku ne peut être accusé de produire, de faire une réduction. Le haïku n'est pas réducteur, il ne réduit pas au général. Il laisse toute chose dans sa particularité. Alors, je dirais qu'il est probable que, en face, c'est-à-dire chez nous, en Occident, au sens macro-historique, il y a une résistance au particulier et une tendance au général, depuis, bien entendu, les Grecs. Il y a un goût des lois, un goût des généralités, un goût du réductible, une volupté à égaliser les phénomènes au lieu de les différencier. Vous savez que Michelet avait repéré cette espèce de typologie au sein même de l'esprit occidental, en opposant deux grandes familles d'esprits auxquelles il avait donné des noms historiques, puisque c'était un historien, l'esprit guelf et l'esprit gibelin. L'esprit guelf, c'est précisément l'esprit de la généralisation, l'esprit de la loi, l'esprit du code écrit, l'esprit de la science, l'esprit du juridisme, et l'esprit du scribe, si vous voulez, et à quoi s'opposer, ce qui était une catégorie très dévalorisée pour Michelet, n'est-ce pas, et à quoi il opposait l'esprit gibelin, qui était un esprit qui valorisait le particulier, l'affectif, le contingent. Eh bien, le particulier, comme valeur dans notre civilisation, semble volontiers repoussé dans les marges, bien que, périodiquement, un penseur se lève et revendique pour le particulier, pour le kairos, pour le non-comparable, comme Kierkegaard ou comme Nietzsche. Donc, ce sont là deux côtés, si vous voulez, deux façons de parler des choses. Et pour ma part, soit dit sous forme de petite digression, on ne m'empêchera pas de préférer, par exemple, la façon dont Proust parle du chagrin, est une façon particulière et contingente, à celle dont Freud parle du deuil. Il se peut que ce que Freud a dit du deuil soit irréfutable, mais le deuil est pris évidemment comme une catégorie générale, et personnellement, je préfère la façon dont Proust en parle. Et c'est d'ailleurs un empiriste, Bacon, qui formule bien l'opposition quand il dit « L'esprit humain de sa nature est porté aux abstractions et regarde comme stable ce qui est dans un continuel changement. » Et ceci est très beau, pourquoi je le cite, « Il vaut mieux fractionner la nature que l'abstraire. Il vaut mieux fractionner la nature que l'abstraire. » Eh bien, je dirais que ceci définit parfaitement le haïku. Le haïku ne stabilise pas le mouvement, il divise la nature et il ne l'abstrait jamais. Donc, le haïku, c'est un art de la contingence. Contingere, en latin, ça veut dire échoir, tomber, arriver par hasard. C'est donc un art de la rencontre. Et pour bien comprendre que la contingence est le fondement du haïku, son trait topique,
faire une épreuve de commutation, c'est-à-dire de prendre quelques fragments de poèmes français qui sont au bord du haïku, mais de voir que précisément, parce que dans ces fragments de poèmes français, il manque la contingence, il y a une sorte de corruption du contingent par une envie de généralité, et que ces fragments de poèmes manquent le haïku, ne sont pas des haïkus, indépendamment même des raisons formelles et métriques. Par exemple, les trois petits vers très charmants et très connus de Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne, cela pourrait être un haïku. Mais à mon sens, c'est trop métaphorique. C'est une métaphore, donc une virtualité, c'est un geste de généralisation, si vous voulez. Et ce n'est pas quelque chose qui est tombé une fois sur le sujet de l'énonciation. De même, quand Apollinaire écrit « En admirant la neige semblable aux femmes nues », c'est très beau, mais c'est encore une comparaison qui est donc engluée dans la production d'une métaphore et donc d'une généralité. Et par exemple aussi une autre forme de corruption par la généralité, par la morale, par la notation moralisée, c'est cette espèce d'aphorisme de Vigny. L'infidélité même était pleine de toi. L'infidélité même était pleine de toi. C'est assez beau, c'est assez bien dit. Et c'est presque un haïku, car c'est une forme brève et non gnomique, non véritablement gnomique, mais ça n'est pas sensuel, c'est une idée morale, et le moral est toujours général. Enfin, il y a ici des postulats réducteurs. Le premier, c'est que être infidèle, c'est abandonner l'autre, c'est se vider de l'autre, et le second, c'est que la fidélité est une belle valeur à partir de laquelle se construit le paradoxe, la dénégation. J'ai l'air d'être infidèle, mais tout de même, je reste un type bien, un type fidèle, donc bien. Alors, je mettrai en regard deux haïkus où l'on voit bien fonctionner le déclic de la contingence. C'est le 15. L'enfant promène le chien sous la lune d'été. Bien, je dirais qu'il y a ici, je ressens comme une sorte de sel de la contingence. En ce sens que, personnellement, je ne peux pas douter que cet enfant n'ait existé. Je suis sûr que cet enfant a existé. Et je vois par là que le haïku, pour moi, n'est pas fictionnel. Il n'invente pas. Il dispose en lui, par une chimie spécifique, de la forme brève, la certitude que ça a eu lieu. Et nous reparlerons de ce problème que ça a eu lieu. La contingence, en effet, renforce la certitude de réalité. Et vous savez que, à qui veut mentir, il faut inventer des contingences. Si on veut bien mentir, il faut inventer des contingences. Parce que c'est ça qui renforce l'impression de réalité. Plus c'est contingent, plus c'est authentifié. Et ici se pose évidemment le problème d'un art très féminité dans notre civilisation, qui est la photographie. Enfin, la photographie a toujours une fonction d'authentification parce que il est toujours expression d'une contingence et non pas d'une transcendance ou d'une généralité. Et ça, c'était le premier haïku, le 15, le 16, deuxième exemple. « Ah, puissais-je vivre toujours, voix de femme, fille de cigale. » Ce haïku est assez retors parce qu'il commence en généralité. Hein? « Ah, puissais-je vivre toujours. » Mais la généralité réintègre immédiatement la contingence. Ce qui est tombé une fois dans un instant unique sur le sujet, c'est-à-dire une voix, un bruit. Alors, j'ai parlé jusqu'ici de la contingence, parce que c'est ce qui répond à la définition du plus grand auteur de haïku japonais qui a été Basho, le poète Basho du XVIIe siècle, et qui a dit que un haïku, c'est simplement ce qui arrive en tel lieu à tel moment. Mais je dirais que, si j'ose corriger Basho, je dirais que ça n'est pas tout à fait suffisant. Et je voudrais introduire une nuance. Le haïku, c'est ce qui survient, contingence, mais en tant que cela entoure le sujet, qui cependant n'existe et ne peut se dire sujet que par cet entour fugitif et mobile. Donc, plutôt que contingence, il vaudrait mieux penser à circonstance. De l'étymologie des circonstances, il vient que ça entoure. C'est ce qui se tient autour, la circonstance. Et ce serait, disons, la troisième dialectique contradiction que je voudrais pointer, après instant souvenir et immobilité mouvement, c'est que le haïku impose la certitude d'un référent en même temps qu'il sollicite de parler de circonstance, enfin, plutôt que de référent. Et en un sens extrême, il n'y a pas de référent dans le haïku. Donc, à proprement parler, je dirais qu'il n'y a pas de technique. On pose seulement des entours, des circonstances, mais l'objet s'évapore et s'absorbe dans la circonstance. Ce qui entoure l'objet, le temps d'un éclair. Et vous saisirez, je crois, cette nuance en comparant un haïku, je vais vous indiquer, à la notation des cris de Paris dans La recherche du temps perdu de Proust. On a dit que ces cris de Paris de Proust étaient presque des haïkus. Par exemple, à la bonne crevette, j'ai l'arrêt tout en vie, ou bien à la romaine, on ne la vend pas, on la promène, etc. Proust a recueilli un certain nombre de ces cris de Paris. Eh bien, si vous comparez au haïku 17, sieste, réveil, j'entends passer le rémouleur, vous voyez tout de suite la nuance. La notation de Proust, quand il rapporte ses cris de Paris, c'est une notation réaliste. Elle se réfère à une sorte de réalité en soi. C'est un relevé, c'est un catalogue. Tandis qu'au contraire, la notation du haïku est absolument subjective. Et le référent est, disons, un circonstant. C'est-à-dire le corps torpide de l'énonciateur qui se dit par son entour. Sieste, réveil, j'entends passer le rémouleur, c'est le sujet assoupi, endormi, presque, qui se dit par ce qui l'entoure, par le volume sonore et synesthésique, si on peut dire, qui l'entoure. Et c'est très différent de la notation de Proust. Parce que chez Proust, il faut tout un récit pour replacer ces cris de Paris dans l'histoire du sujet. Que ce soit le sommeil d'Albertine, enfin la chambre, etc. Il faut tout un récit pour retrouver, pour remettre en marche la machine existentielle. Tandis que ici, il ne faut absolument aucun récit. Ça se dit en trois petits vers. La nature circonstancielle, et non pas seulement donc référentielle du haïku, se lit bien dans son origine, ou du moins dans son traitement classique au XVIIe siècle. Vous savez peut-être que ce tercet, c'est-à-dire le haïku comme trois petits vers, normalement, et notamment chez Basho, donc le plus grand haïkiste, est introduit et mis en relief par ce qu'on appelle en japonais un haibun, H-A-I-B-U-N, c'est-à-dire une prose poétique qui est très souvent un récit de voyage. C'est-à-dire que les haïkus sont pris dans un récit de voyage. Il y a un récit de voyage dans une prose très ciselée, très poétique, très littéraire, et à certains moments, le récit de voyage fait état de sensations particulières qui se traduisent en haïku. Je dirais que pendant le voyage, de temps en temps, quelque chose saute au langage. Il y a un petit satellite de langage qui est à écrit. Et donc, ce Bachot a écrit des carnets de voyage qu'on appelle les Kiko, Kaikao, qui sont parsemés de haïku. Et son voyage avait été fait selon une route qui est devenue depuis célèbre, la 103e du bout du monde, dans les montagnes du nord et du centre du Japon. Et c'est une route, la route de ce voyage, est jalonnée aujourd'hui encore par des stèles où les habitants ont gravé les haïkus de Bachot, ce qui est très beau comme indice de civilisation. Évidemment, quand on va à Illié, Combray, on peut dire qu'aussi qu'il y a des tas de parcours qui sont jalonnés par des souvenirs littéraires, n'est-ce pas? En particulier, il y a quatre pâtisseries qui fabriquent les fameuses madeleines qui sont toujours les vraies madeleines de la Tante-Léonie. Mais malgré tout, disons que la sensibilité littéraire serait plus plausible nous avions aussi en France des sortes de routes qui seraient jalonnées par des stèles où les habitants auraient gravé des poèmes qui s'y rapportent. Et l'un des traducteurs des haïkus, Koyo, que je cite très souvent, a très bien vu cela, c'est-à-dire que dans un recueil qui s'appelle, je ne sais pas, Les Fêtes du Japon, chose comme ça, il articule les haïkus qu'il traduit avec un journal personnel. Et en fait, c'est ça. C'est bien vu parce que, le devenir normal et fonctionnel du haïku, c'est de l'intégrer à un journal personnel. Faire un journal autobiographique et, de temps en temps, y intégrer un haïku. Et le haïku, à ce moment-là, est comme un débris erratique, un relief du tissu quotidien individuel, et ainsi, il est pointé, je dirais, une sorte de double texte. Ainsi, si vous voulez, permettez-moi une anecdote personnelle, dont je n'ai pas fait un haïku, mais qui aurait pu faire un. Il y a bien des années, j'étais en Hollande, dans une ville Groningue, et j'ai dû rentrer précipitamment à Paris. En auto, c'est-à-dire quitter Groningue le soir, à 11h du soir. Nous avons fermé la maison, nous avons laissé tout en ordre, mais à ce moment-là, s'est posé un problème rigoureusement insoluble, les ordures. Que faire des ordures à 11h du soir, en Hollande? On ne peut strictement rien en faire. C'est-à-dire que nous avons été obligés de mettre ces ordures dans un sac, de rouler toute la nuit, en nous demandant toutes les 5 minutes s'il y avait un endroit un peu moins propre où nous pourrions les laisser. Mais il n'y avait pas d'endroit où jeter ces ordures, puisque les canaux eux-mêmes sont si propres qu'on n'oserait pas y jeter quoi que ce soit de ça. Eh bien, si je raconte ça, c'est parce que j'ai retrouvé ce site dans un haïku moderne, à peu près, enfin, le numéro 18, « Brillante lune, pas de point sombre, une idée de sang. » Bon, je suis un petit peu fatigué, comme vous pouvez le voir, donc nous allons arrêter maintenant et nous recommencerons, nous continuerons plutôt samedi prochain.